Le journal vous est présenté par Frédéric Barrère. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal de 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Dans l'actualité ce soir, un retour à Moscou très mouvementé pour Alexeï Navalny. Son avion a été dérouté. Il a atterri sur un aéroport loin de ses partisans venus l'accueillir. Alexeï Navalny, opposant au président russe Vladimir Poutine et sous la menace d'une arrestation, Claude Brouillot dans un instant. Des milliers de messages sur Twitter, sur le modèle de MeToo. Le hashtag MeTooInceste a fait son apparition dans le sillage du livre de Camille Kouchner. Des milliers d'internautes racontent les abus dont ils ont été victimes enfants. 50 000 messages ce soir ou témoignages comme Gwendoline.
J'ai choisi de le faire dans ce cadre-là parce que je me dis que je suis protégée par mon téléphone. Je voulais pouvoir en parler sans que les parents soient au courant et j'avais peur de ce qu'ils diraient. Je suis terrifiée.
Le débat est lancé sur le passeport vaccinal. Pourrait-il voir le jour? Un sondage IFOP montre qu'une majorité de Français est favorable à un certificat de vaccination obligatoire. Dès demain, la campagne de vaccination contre le coronavirus s'élargit aux plus de 75 ans. Dans ce journal également, les États-Unis, où la tension est maximale à 3 jours de la cérémonie d'investiture de Joe Biden. Et puis, vos rendez-vous du 19h avec la page sport, au menu du football et la journée de Ligue 1. Du tennis avant les internationaux et l'Open d'Australie. Et puis nous nous intéresserons à toutes ces rencontres sportives à huis clos et sans supporters. Notre coup d'œil sur l'agenda et les temps forts de l'actualité à suivre la semaine prochaine. En fin d'édition, notre rendez-vous du dimanche 19h, c'est mon actu, Sandrine Houdin, avec ce soir le témoignage de Bibi, épicier de nuit à Paris, en lutte contre le couvre-feu à 18h. La météo pour demain, amélioration au sud-est, une nouvelle perturbation arrive par le nord-ouest. Jean-Michel Kolinski à la fin de cette édition. À 19h30, les petits bateaux Noël Bréham.
Je m'appelle Gabriel, j'ai 8 ans et je voudrais savoir si les insectes font pipi.
Réponse à 19h30, à ne pas manquer les petits bateaux.
France Inter.
C'est une déflagration sur Twitter et les réseaux sociaux. Sur le modèle de MeToo et dans le sillage de l'affaire Duhamel et du livre de Camille Kouchner, La famille agrandée, le hashtag MeTooInceste suscite des milliers de messages sur Twitter. Après la publication donc du livre de Camille Kouchner et l'explosion des ventes en librairie, les internautes racontent, ils racontent les abus et les violences sexuelles dont ils ont été victimes enfants dans la sphère familiale. Ce hashtag MeTooInceste a été lancé hier. Bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir.
Et les milliers de messages, certains commencent par « j'avais 4 ans et demi ».
Oui, j'avais 4, 7, 13 ans quand un oncle, un père, un cousin a commis l'irréparable. Ces témoignages se multiplient sur Twitter comme celui de Gwendoline, 20 ans. C'est un prénom d'emprunt. Son grand-père l'a violée de ses 8 à ses 16 ans. Elle n'en avait jusqu'ici jamais parlé.
J'ai choisi de le faire dans ce cadre-là parce que je me dis que je suis protégée par mon téléphone. Je voulais pouvoir en parler sans que mes parents soient au courant et j'avais peur de ce qu'ils diraient. Je suis terrifiée. Ça me fait réaliser que, à cause de lui, je supporte pas être touchée par d'autres personnes et que j'ai peur des hommes. J'étais surprise de voir qu'il y avait autant de personnes touchées par l'inceste, en fait.
Un Français sur 10 dit avoir été victime d'inceste selon un récent sondage. Alors les associations demandent au gouvernement de renforcer la détection des victimes par la formation des professionnels. Adrien Taquet, le secrétaire d'État en charge de l'enfance, dit alerter sur ce problème depuis 2 ans.
Dans le cadre du plan de lutte contre les violences faites aux enfants de novembre 2019, nous renforçons la formation des travailleurs sociaux, la formation des magistrats, l'accompagnement des médecins pour détecter les violences. À l'école, les associations font un travail de sensibilisation formidable. Nous pouvons probablement aller encore plus vite et plus loin, notamment sur la sensibilisation des enfants eux-mêmes. Il y a probablement un chantier qui est encore devant nous.
Le gouvernement compte aussi ouvrir d'ici l'an prochain des unités d'accueil pédiatrique de l'enfance en danger dans chaque département pour recueillir la parole des victimes.
Rémi Brancato, merci. À l'étranger, la tension est maximale aujourd'hui aux États-Unis, à Washington et dans les 50 États américains. Les partisans de Donald Trump veulent manifester partout dans le pays. Washington se barricade. La garde nationale a pris position tout autour du Capitole où se tiendra dans 3 jours la cérémonie d'investiture et la prestation de serment de Joe Biden sur les marches du Capitole. En direct de Washington, on retrouve notre envoyé spécial Sébastien Pao. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous.
Et vous êtes en ce moment proche du Capitole et Washington est vraiment en état de siège.
Oui, on est en train, encore à l'instant, d'installer des grilles de protection pour faire des sas de sécurité supplémentaires entre le Capitole, où se trouvent déjà des drapeaux américains et où on voit l'estrade, où Joe Biden prêtera serment mercredi matin, dans 3 jours, et le Mall, cette vaste esplanade qui va jusqu'au Washington Monument, puis ensuite sur la droite vers la Maison Blanche. On est en train de faire un sas de sécurité très vaste, très large, avec ces barrières de 3 mètres de haut, avec ces blocs de béton qu'on installe devant ou derrière, et puis avec tous ces soldats et ces policiers, ces hommes du Secret Service à côté de nous, en gilet pare-balles avec leurs armes évidemment sur la cuisse. Les soldats sont installés sur la pelouse au pied du Capitole. Il y a des véhicules blindés kaki, on se croirait dans Bagdad ou dans Kaboul, et on se prépare évidemment à protéger cette ville, comme on le fait déjà aujourd'hui en ce moment en vue des manifestations qui étaient annoncées, des partisans de Donald Trump qui ne sont pas là. La ville est désertée, la ville est vidée, quadrillée, comme je vous le disais, par ces forces de l'ordre. Et donc, il ne se passe rien. Les plaques de bois recouvrent le bas des immeubles. Sur les banques, parfois, on voit des petites plaques de bois qui s'ouvrent pour accéder à un distributeur automatique. Mais la ville est vidée. Aucun manifestant aujourd'hui. Et la fête qui devait avoir lieu, qui a lieu habituellement tous les 4 ans sur le Mall pour l'investiture du président, n'aura sans doute pas lieu. Il y aura vraisemblablement plus de soldats et de policiers que de public.
Sébastien Paour, en direct de Washington avec Nicolas Mathias. Merci. Le retour mouvementé en Russie d'Alexei Navalny, la bête noire de Vladimir Poutine. Alexei Navalny était soigné en Allemagne après son empoisonnement au Novichok. Son avion dans l'après-midi a été dérouté. Il a atterri près de Moscou, mais pas à l'aéroport prévu initialement, où ses partisans étaient venus l'accueillir. Et on apprend à l'instant que l'opposant, le militant anticorruption, l'opposant à Vladimir Poutine, a été interpellé par la police à l'aéroport de Moscou. Un retour mouvementé, des liaisons également mouvementées. Nous n'arrivons pas à joindre notre correspondant sur place, Claude Brouillot. Problème de liaison, et dès que c'est rétabli, nous irons à Moscou retrouver Claude Brouillot, où je vous rappelle que l'opposant Alexei Navalny a donc été interpellé par la police à sa descente d'avion à l'aéroport de Moscou. La France a vacciné plus de 413 000 personnes en 3 semaines depuis le début de la campagne de vaccination contre le coronavirus. Dès demain, la campagne va s'élargir aux plus de 75 ans et aux personnes présentant des pathologies graves. Signe du renversement de tendance et de la volonté désormais d'une majorité de Français de se faire vacciner. Plus d'1 million de personnes ont pris rendez-vous pour les 2 injections du vaccin, mais tout le monde n'a pas pu s'inscrire, Daniel Messager.
C'est un nombre conséquent de personnes qui, sur le papier, devraient bénéficier de la vaccination. 6 400 000 en comptant les plus de 75 ans vivant à domicile et les malades souffrant de pathologies dites à haut risque. Ça inclut entre autres les malades du cancer sous traitement, les insuffisants rénaux ou les greffés. Sur le papier. Car dans la pratique, 833 centres ont bien été ouverts à la vaccination. 1 million de rendez-vous pris dès vendredi. Mais nombreux sont ceux qui n'ont pas pu accéder aux plateformes vers lesquelles renvoie santé.fr. Doctolib affiche ainsi un message: de nouvelles possibilités seront accessibles dans quelques jours, voire dans quelques semaines. Alors, problème d'organisation ou d'arrivée des vaccins, il semble que les doses soient encore délivrées trop lentement. À peine 500 000 personnes vaccinées avec la première dose, avec un objectif affiché de 1 million de vaccinations à la fin du mois de janvier, entre 2,5 et 4 d'ici fin février, il est évident que tous les candidats au vaccin ne pourront en bénéficier. À moins que les livraisons ne s'accélèrent, mais Pfizer affiche un retard finalement réduit à 1 semaine, pas compensé par Moderna, dont la production est moindre. Un espoir toutefois du côté d'AstraZeneca, qui pourrait être autorisé à la fin du mois.
Daniel Messager, le passeport vaccinal pourrait-il voir le jour? Le débat est lancé. Un sondage IFOP pour Le Parisien montre qu'une majorité des Français interrogés est favorable à un certificat de vaccination obligatoire pour certaines activités comme prendre l'avion. Le gouvernement français est lui très réticent. La question n'a pas lieu d'être, selon Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes. Et pourquoi pas, selon le professeur Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris. Il existe bien, dit-il, un certificat de vaccination pour la fièvre jaune.
Quand vous voyez le côté liberticide des variants qui arrivent, excusez-moi, mais je trouve ça complètement déplacé. Les gens vont se l'approprier. Est-ce que le certificat de vaccination jaune, pour la fièvre jaune, est vécu comme un document liberticide? Vous voulez aller dans un pays où la fièvre jaune est obligatoire? Après, c'est les pays qui décident. Ça ne sera pas liberticide. Il faut qu'il y ait un aspect technique qui protège les individus. Par exemple, on voit pas un fichier, évidemment qu'il faut pas un fichier central. Il faut un code QR, quelque chose qui soit pas trop falsifiable, etc. Mais et puis autre chose aussi, les Français vont se l'approprier. Et puis après, ça empêchera pas de maintenir les mesures barrières si vous allez au théâtre et qu'on vous demande votre passeport au théâtre. Moi, ça me choque pas.
Le professeur Gilles Pialoux avec Jules Dekis. On l'a appris dans l'après-midi. Phil Spector, le producteur de musique américain, est mort aujourd'hui en prison à l'âge de 81 ans. Phil Spector avait été condamné à 19 ans de prison pour le meurtre d'une actrice américaine. Phil Spector, producteur aux méthodes innovantes, producteur d'immenses succès comme l'album Let It Be des Beatles. Il avait aussi influencé de nombreux artistes, Tina Turner, les Beach Boys, jusqu'à Bruce Springsteen, Isabelle Pasquier.
Phil Spector, c'est une légende, un son, la bande originale d'une époque, les années 60. Un génie du son, mais un caractère plus que trouble. C'est le Richard Wagner de la pop, selon le critique musical britannique Nick Kent. Chanteur à succès, Phil Spector passe très vite derrière les manettes des consoles. Et ses premières compositions comme Be My Baby vont inspirer les Beach Boys. Phil Spector va inventer ce qu'on appellera le mur du son, l'enregistrement d'une cascade d'instruments avec une technique de réverbération. Il travaille avec Ike et Tina Turner, il va produire le disque Let It Be des Beatles, Imagine de John Lennon, le concert pour le Bangladesh de George Harrison. Il a travaillé avec Leonard Cohen et plus tard, dans une esthétique beaucoup plus punk, avec les Ramones. Avec son caractère visiblement bipolaire, ce qu'il appelait ses démons, ses relations avec les artistes sont orageuses. En 2009, Phil Spector est condamné à 19 ans de prison pour le meurtre de l'actrice Lana Clarkson, morte en février 2003 dans le manoir du producteur à Los Angeles.
Voilà, Phil Spector, mort aujourd'hui à l'âge de 81 ans, et l'entendez Born to Run de Bruce Springsteen, produit par Phil Spector. On retourne à Moscou, où la liaison a été rétablie avec notre correspondant Claude Brouillot. Bonsoir Claude Brouillot.
Bonsoir Frédéric.
Que se passe-t-il actuellement? Où est Alexei Navalny? Les autorités Moscou annoncent qu'il a été interpellé à sa descente d'avion.
Oui, absolument. Je vous confirme, donc, il y a quelques instants, Alexei Navalny à l'aéroport de Cheremetyevo, où son avion avait été détourné il y a un peu plus d'une demi-heure de cela, donc a été arrêté au moment du contrôle des passeports, un peu comme l'avait déclaré d'ailleurs l'administration pénitentiaire russe, pour non-respect officiellement des règles du sursis dans une affaire qui date de 2014, pour laquelle Alexei Navalny avait été condamné à 5 ans de prison à l'époque. On sait maintenant à quel point le pouvoir a peur d'Alexei Navalny, ainsi s'exprime ici à Vnukovo, l'autre aéroport où devait atterrir Alexei Navalny, les sympathisants donc d'Alexei Navalny, qui sont déçus évidemment de ne pas avoir vu leur leader, mais en même temps heureux de savoir qu'il est rentré au pays. Il était quelques dizaines à avoir pu pénétrer à l'intérieur de l'aéroport ici, où d'autres sympathisants ont été arrêtés. Voilà donc confirmation officielle, Alexei Navalny a été arrêté ce soir à l'aéroport de Cheremetyevo.
Claude Brouillot, merci, en direct de Moscou. (Rire) 19h13 sur France Inter, la page sport de cette édition. Bonsoir Guillaume Batin.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous.
Et on démarre avec le football, la Ligue 1 de football, déjà secouée par la crise des droits télé. Elle est aussi très touchée par l'épidémie du coronavirus.
Le match Lorient-Dijon prévu aujourd'hui a été reporté en raison de 12 joueurs bretons positifs au PSG. 3 joueurs, plus le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino, sont placés à l'isolement. Nice, Lyon, Monaco sont aussi touchés. Mais il y a une équipe qui bat tous les records aujourd'hui, c'est Saint-Étienne. Alexandre Vaux, bonjour.
Oui, bonjour.
Défaite 1-0 à Strasbourg cet après-midi pour une équipe littéralement décimée.
10 joueurs, Guillaume, touchés par le Covid et donc qui étaient absents effectivement pour ce match. L'AS Saint-Etienne, il faut le savoir, a été à la limite du nombre de cas positifs tolérés, un joueur de plus, et le match aurait été reporté, sans compter l'ensemble du staff technique également touché par le virus, le manager général Claude Puel, ses deux adjoints et l'entraîneur des gardiens. Ajouté à cela, c'est pas terminé, 4 joueurs blessés côté vert, ça arrive. arrive. La SSE a donc dû puiser dans son vivier de jeunes talents pour jouer cet après-midi à Strasbourg. 23 ans de moyenne d'âge au coup d'envoi. Certains ont même découvert la Ligue 1 ou un nouveau poste auquel ils n'étaient pas habitués, avec un milieu de terrain, par exemple reconverti défenseur. Et pourtant, vous l'avez dit, au final, Saint-Etienne s'incline par le plus petit des écarts après avoir loupé un pénalty. Les Verts sont 16e de Ligue 1 et poursuivent leur descente aux enfers avec un 5e match sans victoire pour entamer la phase retour du championnat, alors que le derby face à Lyon se profile dimanche prochain dans le chaudron.
Merci Alexandre Vaux. Et Laurent Huard, l'entraîneur adjoint de Saint-Etienne, est déjà prêt à remplacer sur le banc une nouvelle fois le coach numéro 1, Claude Puel, positif au Covid lui aussi. Mais il y a quand même des questions à se poser selon lui. Pourquoi autant de cas 14 à Saint-Etienne, Laurent Huard?
Le staff a été décimé toute la semaine, des joueurs se rajoutaient. Peut-être à se poser des questions sur le règlement, sur pourquoi le staff aussi, tout le staff était quand même absent. Alors aujourd'hui, on a des moyens de communication. Je veux dire, le coach, on a communiqué toute la journée. Voilà, la causerie, il l'avait préparée. Mais vous voyez aussi que les joueurs n'ont pas été tant que ça perturbé, parce que les jeunes qui rentrent, voilà, c'est garde une ligne de conduite dans le jeu, dans les intentions de jeu.
Laurent Huard, l'entraîneur adjoint de Saint-Etienne, au micro de Kevin Baudreau de France Bleu Saint-Etienne-Loire.
Et les joueurs et les joueuses de tennis partis à Melbourne se souviendront longtemps de cet Open d'Australie, alors qu'il n'a même pas débuté, Guillaume.
La condition pour aller là-bas, c'était de respecter un confinement de 15 jours avec autorisation de sortie de votre chambre d'hôtel, uniquement pour aller s'entraîner 5 heures par jour, plutôt contraignant. Et ce sera encore pire pour 72 athlètes. Le chiffre monte d'en heure à chaque fois qu'un vol arrive. Ces 72 joueurs ne pourront donc pas sortir de leur chambre pour s'entraîner pendant 2 semaines, pour avoir été cas contact au total dans 3 avions. C'est un quart des 256 joueurs et joueuses inscrits. Cela concerne des têtes de série comme Nishikori, Azarenka, Stephens, Andreescu, Kuznetsova. Et pour eux, ce sera très dur d'arriver compétitif le jour J, le 8 février, pour le début du tournoi. Le Français Pierre Hugerbert observe tout ça de très près, puisqu'il est déjà sur place.
Premièrement, je vois pas comment est-ce que le chiffre il va pas augmenter, parce que je me dis qu'il y a quand même beaucoup de chances pour qu'il y ait des cas positifs quand même sur les 17 vols. Là, il y en a eu dans 2 vols, mais dans un peu plus que ces 2 vols. Mais effectivement, c'est un coup dur pour ceux qui sont arrivés. Déjà, je me demande s'il y a beaucoup de joueurs ici, sur ce tournoi, qui ont fait vraiment 14 jours ou 15 jours sans jouer au tennis. Je ne sais pas si ça arrivait à beaucoup de monde. Quand on n'est pas blessé, éventuellement, en toute fin d'année, on peut prendre 2 semaines de vacances, mais souvent, c'est moins que ça, quoi. Donc, je sais que l'organisation va tout faire pour qu'ils puissent rester en forme. Je pense qu'ils vont essayer de leur commander des vélos d'intérieur et des choses, essayer d'installer un petit peu, faire des choses pour eux, mais ça remplace pas la raquette. C'est quelque chose qui va énormément fatiguer tout le monde, parce que rester 14 jours dans une chambre d'hôtel sans sortir, c'est une vraie épreuve, quoi. Mais je pense qu'on sort pas de là indemne. Bah, c'est vrai qu'avant un grand chelem, c'est pas la meilleure préparation, ça c'est clair.
Pierre Hugerbert, au micro de Fabrice Sabral, qui nous racontera tous les jours son confinement avant l'Open d'Australie.
Le Vendée Globe, Guillaume, et après 70 jours de navigation, les skippers continuent leur remontée vers la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne.
Les premiers sont attendus d'ici une dizaine de jours, et ce sera sans doute un peu plus long pour le 13e du classement général, Romain Attanasio, qui garde quand même le moral en arrivant dans un climat un peu plus chaud. On est loin du Cap Horn et des côtes de l'Antarctique.
Hier, pour la première fois, j'ai enlevé la polaire et le baby gros et j'ai gardé le collant. Et aujourd'hui, j'ai enlevé le collant, tu vois. Donc là, je mets le t-shirt. Donc là, en 2 jours, on est passé de l'hiver à l'été, quoi. Donc c'est incroyable. Alors ça fait du bien, tu vois, que tout sèche, le bateau sèche, tout est... Enfin, voilà, la vie est beaucoup plus facile. Donc ça, c'est plutôt sympa. À mon avis, je vais voir les premiers poissons volants bientôt, qui sont vraiment le signe de que l'eau est chaude. C'est un moment que j'attendais depuis longtemps. Ouais. C'est pas mon premier... souci, je te dirais, mais mon premier souci, c'est d'avancer et de réussir à quitter cette zone sans vent et à rejoindre l'Alizée, quoi, qui sera vraiment l'autoroute vers l'équateur.
Et les 7 premiers ont franchi l'équateur. Romain Attanasio est encore un peu derrière. Ils sont 9 au total à 200 000 nautiques prêts pour la victoire. 3 podiums ce week-end pour les skieurs alpins français. Tessa Worley, 2e à Kranjska Gora. Clément Noël, 2e au slalom de Flachau, cette station où aujourd'hui Alexis Pinturo est monté sur la 3e place du podium également. Victoire pour Julia Simon, toujours en ski, mais là en biathlon. Elle a gagné la Masters à Oberhof en Allemagne.
Eh bien, on va s'intéresser maintenant au 16e homme, celui que l'on appelle
en rugby et qui est les supporters. On appelle le 16e homme, mais il n'y a pas que le rugby. Tous les sports sont concernés depuis de très longs mois déjà pour les passionnés de sport. Les rencontres se déroulent dans des stades vides, des tribunes fantômes qui résonnent. Et depuis le mois d'octobre, le huis clos est devenu la règle en France. Comment les supporters vivent-ils la situation? Comment font-ils aussi pour garder le contact? Supporters, mais de loin, c'est le long format de ce soir, Fanny Le Chevestrier.
On se croirait au temps d'avant. Hier après-midi à Toulouse, des dizaines de supporters de foot célèbrent devant le stade l'arrivée du bus de leur équipe. Quelques minutes volées au huis clos pour entretenir un contact, même lointain. Supporter d'encore plus loin, c'est devenu le quotidien des fans de stade de rugby du Pré Fleury à Nevers. Le couvre-feu à 18h depuis début janvier empêche tout comité d'accueil.
La seule chose qu'on a réussi nous à faire pour marquer notre présence, c'est qu'on a déplié le grand tifo de 10 mètres sur 15 au milieu des tribunes.
Xavier Loap est le président de la Botte de l'Ovalie, l'une des associations de supporters du club de Lussonne.
Ce qui nous manque le plus, c'est clairement de se retrouver tous ensemble au stade. C'est le contact humain. Supporte à domicile, mais on fait aussi des déplacements à l'extérieur. Et quand on fait plusieurs heures de bus, forcément, il y a une convivialité qui se fait d'office.
Ici, le match de rugby, c'est le point d'ancrage de la ville et de ses environs.
Quand t'arrives le jeudi, bon, bah demain et au match, et puis voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment très 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 présent dans la ville.
Depuis octobre, c'est la soupape du week-end qui manque, ajoute même Gaëtam.
Ah oui, énormément.
Supportrice, son mari tient un café qui retransmet habituellement les rencontres.
C'est vraiment un besoin de se retrouver. C'est une famille, quoi. Leur plaisir de partager un bon moment autour d'une bière, oublier la semaine.
En attendant, Gaëtan suit comme beaucoup les matchs à la télé. Ce soir-là, la famille se retrouve chez Anthony Roux, co-président de l'association Azur et Or.
C'est des stades morts, c'est une image triste du rugby.
Anthony peste bien sûr de suivre le match de son canapé, mais malgré tout, il ne manque pas une rencontre, le portable jamais loin.
On s'appelle à la mi-temps pour débriefer, et puis à la fin du match, on refait le monde, quoi, on refait le match, ouais, obligatoirement. Nous, après, on se parle beaucoup sur les réseaux sociaux. On a un petit groupe Messenger. On essaye d'entretenir les liens, de parler toujours rugby.
Ce qu'il redoute, c'est que le club perd tout de même des supporters en route.
Les gens ont pris une nouvelle habitude aussi, c'est de regarder à la maison, au show. Il y a les arrêts sur image. Moi, j'ai des adhérents. Ils ont pris la chaîne Canal+, et ils me disent on est bien à la maison, on est en sécurité.
Alors, pour limiter la casse, certaines équipes essaient d'entretenir les liens, comme au Stade Rochelet, où des joueurs appellent leurs supporters.
Bonjour, c'est Zeno Kif du Stade Rochelet.
Je voulais vous appeler pour déjà prendre des nouvelles.
C'est super sympa ce que vous faites là, d'appeler les gens.
Mais à Nevers, c'est à chacun de se débrouiller pour garder le contact.
On a un petit peu plus d'affinité avec certains joueurs, donc on peut les retrouver via Messenger, Facebook, on arrive à leur parler.
Quant à un retour au stade, Anthony avait fait fabriquer des masques aux couleurs de son équipe pour le grand jour. Aujourd'hui, il se demande si ce sera seulement possible d'y remettre les pieds une fois cette saison.
Supporteur, mais de loin, Fanny Le Chevestrier.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine, et on ouvre l'agenda des temps forts de l'actualité de la semaine à venir. La lutte contre l'épidémie de coronavirus et la vaccination des plus de 75 ans, on en a parlé, occupera encore une grande place dans l'actualité. Autre temps fort demain lundi, une commission ad hoc à l'Assemblée nationale examine le projet de loi confortant les principes de la République. Un texte qui a déjà fait couler beaucoup d'encre sur les thèmes de la laïcité et du séparatisme. Les députés entrent en commission dans le vif du sujet. Mardi, le temps fort de la journée, c'est le procès d'Édouard Balladur et François Léotard devant la Cour de justice de la République dans le volet financier de l'affaire Karachi. Édouard Balladur, l'ancien Premier ministre, est poursuivi pour avoir financé sa campagne présidentielle de 1995 avec des fonds occultes issus de contrats de vente d'armes. Corinne Audouin.
Dans le rôle des juges, il y aura 3 magistrats de la Cour de cassation, 6 députés et 6 sénateurs, et autant de suppléants. Un aréopage impressionnant, nommé Cour de justice de la République, qui juge uniquement les infractions commises par des ministres dans le cadre de leurs fonctions. Les débats prévus sur un mois se tiendront au vieux palais de justice de Paris. Édouard Balladur, aujourd'hui âgé de 91 ans, devrait venir au premier jour de son procès. Ce qu'on lui reproche, d'avoir facilité en 93 et 94 1994, la mise en place d'un réseau d'intermédiaires dans des ventes d'armes au Pakistan et en Arabie Saoudite, avec le concours de son ministre de la Défense, François Léotard. Le Premier ministre aurait ensuite bénéficié d'une partie de l'argent touché par ces intermédiaires pour financer sa campagne présidentielle de 1995, une élection qu'il avait perdue au premier tour face à son ex-ami de 30 ans, Jacques Chirac.
L'actualité mercredi sera aux États-Unis avec la cérémonie d'investiture de Joe Biden comme 46e président américain. France Inter vous fera vivre cet événement avec notamment deux émissions spéciales du 18-20 avec Fabienne Sintès. À noter en fin de semaine, vendredi, entrée en vigueur du traité de l'ONU sur l'interdiction des armes nucléaires au moment où Paris et plusieurs pays européens demandent à l'Iran de renoncer à la production d'uranium métal comme composant pour des armes nucléaires. Et l'actualité, la semaine prochaine, c'est encore et bien sûr le couvre-feu à 18h pour tout le monde. Pour les commerçants, il s'agit d'une mauvaise nouvelle de plus et c'est encore pire pour ceux qui ouvrent la nuit ou très tard, comme les épiciers des quartiers. Le couvre-feu à 18h est pour eux une catastrophe et c'est le cas de Bibi, un petit épicier de nuit du centre de Paris. Pour lui, le couvre-feu à 18h, c'est non, il ouvrira malgré tout. Bibi, l'épicier de nuit, au micro de Sandrine Houdin, témoignage.
16,95. Moi, je m'en fous, je fermerai pas. Ils peuvent me ramener l'armée pour que je ferme ici. Faudrait l'armée.
Pourquoi ?
Pour survivre.
Pourquoi ? Parce que une épicerie de nuit comme ça, ça vit à partir de quelle heure ? Le plus gros du chiffre.
21h40, 22h.
C'est le soir, tard ?
Ouais.
Couvre-feu, là c'est mort.
Impossible. Si je ferme, je vis dehors. Comment je vais payer mon loyer de chez moi ? D'ici, déjà. 100 euros par jour le loyer. C'est pas possible. Je meurs.
Pardon de vous déranger. Vous êtes client.
Ouais.
Juste un mot. Vous comprenez quand il dit « je ne veux pas fermer ».
Bien sûr, il a raison. Moi, je ferais pareil. C'est obligatoire.
Pourquoi ?
Bah parce que tous les commerces, ils sont ouverts, grandes surfaces et autres. Eux, s'ils ouvrent pas le soir, ils sont morts.
C'est le fonds de commerce d'une épicerie. À 18h, comment vous voulez qu'on fasse ? On fait faillite.
Bon, combien je te dois, Bibi ?
Vous avez acheté quoi, là, madame ?
De l'Oasis.
Quand il dit « je ne ferme pas »,
je le comprends. Pour moi, c'est un commerce essentiel.
Il n'a pas le droit.
Bah ouais, mais bon, quand je rentre du boulot et qu'il est tard et que tout est fermé, et voilà, on n'est pas tout le temps disposé à aller faire ses courses en pleine journée. Hein. Moi, je peux pas. S'il n'y a pas d'épicerie, bah, je vois pas à quel moment je vais faire mes courses. Et en plus, on passe un bon moment parce que vu qu'on manque un peu de sociabilité en ce moment...
Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà, ça me fait du bien aussi d'aller papoter 5 minutes avec Bibi parce que je l'aime bien aussi. Bon, allez. Bonne soirée, ciao tout le monde.
On doit faire une pétition pour dire qu'on a besoin de l'épicerie de quartier.
Enfin, sauf là, il y a le couvre-feu. Il est 23h.
Et j'ai besoin d'acheter un truc à manger. Comment il va faire ? Je fais comment ?
Bibi, tous vos clients vous défendent.
Bah oui, de toute façon, ils ont besoin de moi. Hein. Comme j'ai besoin d'eux.
Mais là, si la police arrive, là ?
Bah, on se mange une amende, on n'a pas le choix.
Ils viennent souvent ou pas ?
Ouais, ils viennent assez souvent. La police municipale, ils nous prennent la tête. C'est débile.
Et qu'est-ce que vous leur dites quand ils arrivent ?
Je ferme tout de suite. Et quand ils s'en vont, je réouvre. J'ai plus peur de mourir de faim que de la police.
Toutes les épiceries de nuit sont dans la même galère, quoi.
On est tous dans la même galère, mais après, il y a les résistants et les non-résistants.
Voilà la galère de Bibi, l'épicier de nuit. C'est mon actu avec Sandrine Houdin. Au générique de cette édition, Serge Viguier et Mathias Alléon en régie qui m'ont aidé à préparer ce journal avec Lionel Thompson à la rédaction en chef, assisté d'Hélène Barbet et Swad Bellani. Merci à l'équipe et merci à vous d'avoir écouté ce journal. Le temps pour demain.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Avec Via Santé, devenons tous acteurs de notre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va ?
Jean-Michel Golinski.
Demain, avec des températures souvent proches de 0 à moins 2 degrés aux premières heures, notamment du nord de la Loire au Grand Est, du sud-ouest au Massif Central et en Rhône-Alpes, il faudra se méfier des phénomènes glissants, du surtout au regel, des plaques d'humidité. En journée, les valeurs comparables à celles d'aujourd'hui vont afficher 3 à 5 degrés de Mulhouse à Lyon, 13 à 15 du golfe du Lion à la Provence et sur la Corse et 6 à 10 degrés sur les autres régions. Au niveau du temps sensible, une onde pluvieuse va attaquer le Finistère à la mi-journée, s'accompagnant d'un vent à 60 km par heure. Au fil de l'après-midi et de la soirée, ce temps perturbé va gagner tous les départements proches de la Manche. Le Mistral et la Tramontane vont également se faire remarquer, avec un ciel bien dégagé sur un large pourtour méditerranéen. Ailleurs, les brouillards et les grisailles fréquents au lever du jour vont évoluer assez facilement dans le sud-ouest et du centre à Rhône-Alpes, mais souvent beaucoup plus difficilement sur les régions plus au nord.
Jean-Michel Golinski de Météo France.